La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Nouveau numéro de la mêlée de l'info pour lequel je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le grand studio de Radio Présence Guillaume Agulot, référent Occitanie du printemps républicain, Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du mouvement Génération pour la Haute-Garonne, soutien de la NUPES, et enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission À bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue également à vous trois, merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. Après les effrayants attentats perpétrés par le Hamas en Israël, c'est en France que le terrorisme islamiste a frappé en fin de semaine dernière, 3 ans presque jour pour jour après l'horrible assassinat de Samuel Paty. Dominique Bernard est tombé vendredi dernier sous les coups de couteau de l'islamiste Mohamed Mougouchkov. C'était au lycée Gambetta d'Arras. Une nouvelle agression meurtrière contre un professeur qui a d'autant plus suscité l'émotion et l'indignation que son assassin était fiché S, membre d'une famille tchétchène radicalisée vivant de longue date en France et ayant fait l'objet d'un avis d'expulsion en 2014. Avis rejeté finalement après l'intervention de plusieurs associations. Est-ce que vous redoutiez qu'une telle tragédie se produise de nouveau dans notre pays, 3 ans à peine après le choc de l'assassinat de Samuel Paty? Et est-ce que vous craignez que d'autres surviennent bientôt sur notre territoire, l'actuelle guerre en Israël donnant aux islamistes les plus radicaux une raison de plus de pousser au crime les esprits les plus faibles? Nous allons commencer avec Guillaume Agulot.
Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, 2 questions. Est-ce que je redoutais ça ou est-ce que je crains de futures attaques? Malheureusement, je vais répondre oui par l'affirmative à ces 2 questions. Oui, évidemment, on le redoutait parce que oui, cette actualité internationale terrible, mais aussi une actualité en France depuis des semaines et des mois autour de l'école. Une pression autour de l'école républicaine, une pression que l'on sentait évidemment monter, une pression de cette logique d'affirmation religieuse, comme l'a très très bien dit le Conseil d'État à propos de l'abaya, mais qui s'exprimait par 1000 manières, de plus en plus, même si certains, jusqu'au bout, n'ont pas voulu le voir et continuent de ne pas vouloir le voir en continuant de nous parler simplement des faits vestimentaires, alors qu'en fait, l'école républicaine est subie depuis des mois, peut-être des années même, une pression de l'islamisme qui veut abattre cette école républicaine parce qu'l'islamisme a bien compris que c'est l'école républicaine qui est encore aujourd'hui son principal frein à son imposition massive au sein de la société. Pourquoi ? Pas du tout parce que l'école serait cet endroit où aujourd'hui les inégalités sociales se perpétuent, voire se reproduisent et se multiplient, hein, malgré quelques départements, comme ici en Haute-Garonne, qui en lancent des plans ambitieux de mixité sociale et de mixité scolaire. Non, en fait, l'islamisme vise l'école parce que justement, l'école est la négation de tout ce que l'islamisme veut imposer ici dans la société. Parce que l'école, c'est le lieu de la diversité, c'est le lieu de l'universalité. C'est-à-dire le lieu où, à un temps, les communautés s'estompent pour laisser place au commun. Et bien ça, c'est exactement ce que l'islamisme ne veut pas. Lui, il ne veut même pas que la communauté soit supérieure au commun. L'islamisme veut que la communauté, c'est-à-dire le communautarisme, soit seule à pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est cette pression qui se manifeste depuis des semaines et depuis des mois. C'est sous nos yeux, c'est tout le temps, c'est en permanence, c'est des remises en cause d'enseignements, c'est des volontés de ne pas participer, c'est des volontés de ne pas faire, c'est des volontés d'imposer sa tenue, c'est des volontés d'imposer ses emplois du temps, c'est des volontés de sortir des parties des programmes scolaires, pas qu'en histoire, hein, pas qu'en biologie, pas que, etc., etc., dans tous les domaines. Cette volonté que l'on retrouve, et pas que dans un seul établissement scolaire ou dans une seule région, c'est partout. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Qu'on est face à un plan concerté, qu'on est face à un plan, pas des initiatives isolées, qu'on est face à une offensive généralisée qui a été programmée, qui est calculée et qui s'applique. Et ben, le problème, c'est que quand on est face à une offensive, il faut, un, l'identifier, et 2, en mesurer la force, et 3, s'organiser, se structurer pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui encore dans ce pays, il y a des institutions, des structures qui refusent simplement de voir l'offensive, y compris au plus haut sommet de l'État. Je rappelle encore que le précédent ministre de l'Éducation nationale, je parle de pas très très loin quand même, expliquait tranquillement que non mais l'abaya, ça sera à chaque chef d'établissement d'étudier ça au cas par cas. C'est-à-dire qu'à un endroit, ça peut être effectivement une pression islamiste, mais à l'autre endroit, de l'autre côté de la rue, ça peut être simplement une tenue vestimentaire. Il n'y a pas encore de prise de conscience de ce qui est en train de se dérouler, de ce qui est en train de se déployer. Il y a même refus de le voir de la part de certains partis politiques. LFI n'est pas représenté ici autour de cette table, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils auraient peut-être des choses à nous dire. Non, oui, c'est de l'ironie, monsieur Cyr, rassurez-vous. Je partage ça également en réalité. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au sein de la NUPES, ce serait intéressant là, d'ailleurs de voir ça. On voit bien que ça continue de tanguer et que c'est toujours pas clair et que c'est toujours pas évident. Donc oui, c'était prévisible, oui, parce qu'on est dans un climat, on est dans une ambiance qui est en train d'attaquer l'école de la République de plus en plus violemment. Une explosion des ce que pudiquement le ministère appelle les atteintes à la laïcité, c'est une explosion, c'est 150% de plus en un an. Et il faut qu'on prenne la mesure, ça a plus que doublé en un an. Donc je veux dire, on n'est pas en train de parler de fantasmes, là, comme j'ai pu l'entendre par ailleurs. On est clairement face à ça. Est-ce que ça va se reproduire? Ah ben oui, j'en ai peur. Je pense qu'on est là face à une force d'inertie qui fait qu'on a encore des personnes qui nous expliquent « Ah oui, mais on ne peut pas, vous comprenez, fiché S, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. » Moi, je me demande combien il va falloir qu'il y ait de profs à terre pour que définitivement, dans ce pays, on prenne la mesure de l'attaque dont l'école républicaine, encore une fois, est la victime, et qu'on agisse pour protéger notre école, nos enseignants, nos élèves.
Alors, Thibaut Cazal, vous êtes enseignant dans un collège de l'école publique de l'éducation nationale. Vous appartenez à la NUPES puisque vous êtes le représentant du parti Génération pour coordinateur pour la Haute-Garonne. Donc est-ce que le tableau que vient de faire Guillaume Agulot, vous le voyez aussi noir que ça? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas la prise de conscience nécessaire, ou est-ce que vous trouvez que peut-être qu'il exagère, qu'il est excessif?
Le tableau aujourd'hui, oui, fatalement, il peut être que noir après ces événements, après ce qui est arrivé à Arras, ce qui est arrivé il y a 3 ans avec Samuel Paty aussi. Oui, c'est sûr que fatalement, aujourd'hui, l'école, et alors, en plus pour l'école, on pourrait même sortir, ne serait-ce que de parler d'islamisme, d'attentats, etc. Mais aujourd'hui, l'école de la République, elle est menacée, mais elle est menacée pas que par les attentats, mais aussi par un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour que l'école de la République soit au rendez-vous de sa mission. Donc aujourd'hui, oui, le tableau, il est noir. Alors après, est-ce qu'il va y avoir de nouveau des attentats de ce genre? Je ne peux pas dire oui ou non, donc fatalement, je vais dire peut-être, et dans un sens, je n'espère pas.
Vous le craignez? Oui. Ça, je pense que personne ne l'espère, heureusement.
Je peux le craindre, mais je ne peux pas dire oui ou non, parce que je ne peux pas le prévoir. Mais en parlant de ce sujet, je voulais revenir aussi quand même sur... et après, je répondrai quand même à quelques petites piques, mais la journée de lundi dernier à mon collège, où on a fait une minute de silence dans l'après-midi, dans la cour de l'école, après que le chef de l'établissement ait lu un discours, des parents d'élèves aussi sont intervenus, etc. Et donc, avant, j'ai dû expliquer aussi à mes élèves pourquoi une minute de silence, c'est quoi une minute de silence, parce que malgré tout, en fait, tout le monde ne savait pas forcément tout ça. Et aussi, j'ai pris le temps de faire en sorte que durant cette journée et le lendemain, toutes mes classes, pendant une heure, on n'a pas fait cours, mais j'ai répondu à leurs questions. J'ai répondu à leurs questions et la première, c'était pourquoi ils ont attaqué un prof. Et du coup, c'est là où ça m'a permis aussi de réellement comprendre qu'ils ne voient pas que l'enseignant représente la République. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème de société, en fait, que les gens ne prennent pas conscience que l'enseignant, le professeur, représente la République. Et ça, c'est un vrai problème parce que les islamistes, eux, ils l'ont compris. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les islamistes, eux, l'ont compris. Le gouvernement ne l'a pas compris et la société française, je pense, ne l'a toujours pas compris. Et ça, c'est un vrai problème. Quand mes élèves, du coup, m'ont demandé pourquoi un enseignant, ben, je leur ai expliqué, du coup, que oui, l'enseignant représente la République. L'enseignant d'histoire-géographie, en plus, et d'EMC, fatalement, représente la République et forme les citoyens de demain. Et on le voit bien avec les thèmes qu'on traite avec eux, que ce soit en histoire, en géographie, mais particulièrement aussi en EMC, où on travaille, par exemple, les valeurs de la République.
Précisez ce qu'est EMC pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il doit y en avoir.
C'est le sigle pour éducation morale civique. Et du coup, quand on travaille les valeurs de la République, on enseigne réellement ce que c'est que d'être un citoyen. On enseigne, c'est nous qui enseignons les droits et les devoirs du citoyen pour que lorsqu'il soit majeur et qu'il soit en âge de voter, qu'il soit pleinement citoyen, à ce moment-là, ils aient les cartes en main pour ne pas faire n'importe quoi. Mais durant cette journée, du coup, il a fallu rappeler aussi ce qui s'était passé avec Samuel Paty. Parce qu'au final, on se rendait quand même compte que certains... les plus jeunes, en plus, certains élèves de 4e, par exemple, il y a 3 ans, pour eux, c'était quand même encore le primaire. Donc, ils s'en rappelaient plus forcément. Donc, il a fallu expliquer tout ça. Et ça s'est très bien passé. On a passé un moment aussi pour se recueillir par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors ensuite, moi, je pense que, bon, j'ai pas débattu ici de la baïa, mais moi, la question vestimentaire n'est pas ma priorité sur cette question-là. Si... oui, ça devient un signe d'instrumentalisation de la part des islamistes. Bon, bah, dans ces cas-là, oui, bien sûr, on interdit. Si, au contraire, c'est juste un vêtement qui n'est pas instrumentalisé, bon, bah, là, par contre, faudrait peut-être revoir cette idée-là.
Pour vous, il ne l'est pas par essence.
Pour moi, il ne l'est pas par essence. Il peut l'être, c'est vrai. Et d'ailleurs, et dans un sens que disait le précédent ministre de l'Éducation nationale, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que oui, ce n'est pas le cas partout, et pour tous et pour toutes. Et c'est peut-être là où il faut creuser peut-être un peu plus loin. Et aussi cette idée où, dans plein d'établissements de la République, hein, il y a 40 ans, il pouvait y avoir ce type de vêtements, et ce n'était pas instrumentalisé de la sorte. Et de la même façon, on a, à force de stigmatiser, d'attaquer cette même communauté, elle se radicalise et elle se met en porte-à-faux de la République. Et on voit plein d'élèves... issus des quartiers populaires qui sont mis de côté et qui se disent « mais moi la République elle m'a abandonné ». Et alors quand ces islamistes arrivent et leur servent tous ces discours pour taper la République, bah, ils se retrouvent avec des personnes qui bah, vont finir par avaler un peu toutes ces histoires. Alors que, on l'a bien vu et je le répète et je l'ai répété en cours pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, mais qu'on comprenne bien que le terrorisme et l'islam sont deux choses différentes, que le Coran ne porte pas en lui cette idée de terrorisme. Et ça a fait du bien d'ailleurs aux élèves musulmans qui étaient en cours, parce qu'eux-mêmes sont les premières victimes à chaque fois qu'il y a ce genre d'attentat. Parce que c'est eux qui sont stigmatisés, c'est eux qu'on regarde mal dans la rue, et c'est eux qu'on est en train de regarder en porte-à-faux. Et je ne veux pas, moi, que ces élèves, qui n'ont rien à voir là-dedans, soient attaqués à ce niveau-là. Et alors ensuite, bon, pour LFI, bon, y avait la petite blague, mais LFI est un parti républicain quand même, hein, je tiens à le préciser. Et pour ce qui est des fichiers S, alors oui, malheureusement, un fichier S, tant qu'il n'a pas commis ou qu'il est en train de commettre un attentat, en étant dans un pays avec un état de droit, pour moi, ça me paraît un peu compliqué de l'enfermer et de le mettre en prison comme ça. Mais ça, c'est le problème de la justice. C'est pas moi qui vais le régler.
On va revenir dans quelques minutes là, après l'intervention de Bruno Cyr sur le fait que la famille en question aurait dû être expulsée en 2014 s'il n'y avait pas eu de recours de la part de certaines associations et des élus qui avaient donné suite. On va bien sûr en parler. Bruno Cyr, après ces deux premières interventions qui sont peut-être pas complètement opposées, mais en tout cas assez différentes sur les constats sur le tableau qu'on peut faire de la situation. D'abord, vous, pour répondre aux deux questions que j'ai posées, est-ce que vous craignez que ça arrive de nouveau, qu'un professeur soit attaqué? Est-ce que vous pensez que malheureusement, ça pourrait encore arriver si on ne met pas en place ce qu'il faut pour s'y opposer? Et puis après, je vous laisserai réagir à ce qu'ont dit Guillaume Agulot et Thibaut Casal.
Alors moi, je crains, bien sûr, mais on peut toujours craindre les terroristes, parce que quand on regarde... notre histoire récente, malheureusement, ça revient à intervalles réguliers. Les actes de terrorisme reviennent à intervalles réguliers. Donc on a un problème, et c'est vrai que ce n'est pas un problème spécifique à la France, c'est un problème qui est européen et même nord-américain, c'est-à-dire c'est dans notre civilisation occidentale que ce phénomène se développe. Donc on peut craindre évidemment que ça continue, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant. À présent, ce n'est pas tellement un individu qui risque d'être attaqué, mais moi je suis à peu près sûr que l'école sera de nouveau attaquée. Et je reviens sur ce qui a été dit. Moi je partage... globalement, ce qu'a dit M. Agulot, bien sûr. Et en revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit par un membre de l'Éducation nationale, et c'est bien ça qui m'inquiète, parce que je pense qu'on vient d'avoir la démonstration que les gens qui sont à l'intérieur de l'Éducation nationale, vous êtes professeur dans un collège, n'ont pas pris la mesure du problème. Quand vous dites, en ayant l'air de les plaindre, cette population... islamiste et stigmatisé, au fond c'est parce qu'on les a la République les a abandonnés qu'ils se radicalisent, etc. Mais quoi, la République les a abandonnés? Tout est gratuit en France, pourquoi ils viennent en France? Ils ont l'école gratuite, ils ont les soins gratuits, ils ont tout un tas de aides. Comment peut-on dire que la République abandonne ses enfants ou abandonne une partie de ses enfants, sauf à jouer les victimes? Alors ça, c'est très très facile. Je suis victime de tout. Et comme je suis victime, j'ai le droit de tuer les autres. Mais non, mais on ne peut pas accepter ce discours. Comment vous pouvez
cautionner ce discours? Qu'est-ce que j'ai dit, hein, pour le coup.
Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de communautarisme en France. Et c'est ça que je vous reproche de ne pas avoir mentionné dans vos propos. Il y a un problème de communautarisme qui est directement opposé aux principes de la République, qui sont des principes universels. C'est-à-dire que notre République française, à la différence d'autres républiques en Amérique du Nord ou anglo-saxonne ou en Angleterre, ne sont pas fondées sur le principe universel d'égalité de droit. On est tous égaux devant la loi. Ça, c'est ce principe universel qui est en front opposé au principe du communautarisme, où les communautés veulent qu'on reconnaisse leurs droits. J'ai le droit de revenir à l'école avec un signe religieux, parce que l'abaya, c'est un signe religieux. Non, l'école est laïque, il n'y a pas dans l'espace laïque à avoir de signe religieux. Et si on commence à accepter pour une communauté, on sera obligé d'accepter pour d'autres, et on arrivera à un système complètement éclaté, où chacun revendiquera un droit qui lui est spécifique et où donc la République éclatera.
C'est ce qu'on appelle des droits particuliers.
Oui, donc moi je pense qu'il ne faut surtout pas accepter qu'on mette le pied dans la porte, et malheureusement c'est ce qui a commencé à être fait, et heureusement qu'aujourd'hui on réagit, qu'on ouvre les yeux, je rejoins ce que M. Agulot, on a été aveugle pendant trop longtemps, et ces événements tragiques doivent absolument nous donner une douche froide pour ouvrir les yeux. Le communautarisme, c'est la mort de nos principes républicains. Et s'il y a un endroit où ils doivent être justement enseignés et respectés, c'est dans l'école. Donc, pas de signes religieux, tous pareils. D'ailleurs, moi, je serais assez partisan qu'on ait des uniformes, comme ça se faisait dans la Troisième République, où les élèves avaient tous un uniforme. Donc, il y avait vraiment une égalité. On était tous habillés pareil, il n'y avait pas de différence. Et si j'étais capable de me payer des chaussures à 350 euros, ou des habits extrêmement chers, ça ne se voyait pas, on avait tous le même uniforme. Donc, moi, je serais partisan de ça, et sûrement pas d'accepter que les uns et les autres aient une différence. Alors maintenant, je reviens sur le fond de la question. Pourquoi est-ce que ça s'est passé dans une école pour la deuxième fois en 3 ans d'intervalle? Pour une raison qui n'a pas suffisamment été dite, mais je crois qu'il faut bien mesurer ça. L'école est un lieu, et le seul lieu, peut-être parce que les communautés se sont beaucoup regroupées dans certains quartiers, et donc vivent beaucoup entre elles, et il y a un lieu où là, tout d'un coup, tout le monde est présent, et tout le monde doit obéir à la même culture, doit intégrer la même culture, c'est l'école. Or, les islamistes ont déjà dit, il y a presque 20 ans, c'était à la fin des années 2010, ont dit dans une déclaration de leur regroupement, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu l'équivalent de l'ONU pour l'islam, c'est-à-dire qui regroupe les pays islamistes, ils ont dit...
C'est la Ligue islamiste mondiale.
La Ligue islamiste mondiale, exactement, je cherchais le mot. Ils ont déclaré qu'effectivement, il ne fallait pas que les musulmans, à travers leur religion, perdent leur culture, et que donc, pour ne pas qu'ils perdent leur culture, il fallait absolument que leurs enfants soient éduqués, même s'ils ne sont pas dans des pays musulmans, c'est-à-dire en Europe par exemple, que leurs enfants soient éduqués avec les principes musulmans. Donc il faut rejeter la culture. Et c'est quoi ces principes musulmans ? Ben, là encore, c'est des principes qui vont contre beaucoup de choses de notre culture humaniste universaliste. C'est le rôle des hommes et des femmes n'est pas le même, hein. Les femmes ont la charge de l'éducation des enfants, ont la charge du foyer, les hommes ont la charge. Donc il y a une séparation très nette entre le statut des femmes et le statut des hommes dans les principes musulmans, que je ne critique pas, je veux dire, ils ont le droit de croire à ça. Ensuite, dans un certain nombre de choses, ce sont les lois du Coran, hein, du livre sacré, qui doivent être au-dessus des lois de la République. Or, à l'école, on ne peut pas vous apprendre ça. On ne peut pas vous apprendre, et on vous apprend au contraire, qu'il y a des lois qui s'imposent à tout le monde, et justement, par le principe d'égalité, tout le monde doit être soumis aux mêmes lois. Mais ce n'est pas ça qu'enseigne le Coran. Donc, s'ils veulent garder leur culture, ils n'acceptent pas l'école. Dans certains pays, ils ont demandé à ce qu'il y ait des écoles coraniques et que leurs enfants soient éduqués dans la culture et dans leurs écoles. Mais en France, ce n'est pas possible. L'école est obligatoire et c'est l'école de la République. Et donc, justement, il faut surtout garder cette barrière et dire, ici, on est dans un État laïque et tout le monde, on n'accepte pas de filles voilées, ni pour faire du sport, ni pour faire de la gym, ni pour faire des cours de quoi que ce soit. Et puis, il y a la science, parce que notre humanisme judéo-chrétien est fondé aussi sur l'acceptation de la science qui nous dit un certain nombre de choses et c'est pas un livre religieux, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, qui doit nous dire la vérité. Donc c'est ça l'école publique et c'est ça qui est attaqué. Et donc il faut vraiment réagir et j'espère que les gens de l'éducation nationale ont compris que ça allait plus loin. Parce que commencer à dire, oh dans certaines écoles on peut accepter la baïa, oh dans certains stades de foot on peut accepter que les filles ne soient pas habillées comme les garçons, etc.
Non mais ça, c'est l'engrenage des droits particuliers comme je le disais tout à l'heure.
C'est la doigt dans l'engrenage.
Alors, après ce premier tour de table qui a été très large, j'aurais revenir à un des aspects que j'ai pointé tout à l'heure. Il a été relevé que Mohamed Mougouchkov était fiché S, comme je l'ai dit en introduction, que sa famille très radicalisée aurait dû être expulsée du territoire national en 2014, une expulsion qui n'a pas été appliquée en fin de compte en raison de la forte opposition d'associations. On peut les citer, hein. Il y avait le MRAP, il y avait la CIMAD, il y avait ERASF pour l'Ille-et-Vilaine, et il y avait même la Fédération d'Ille-et-Vilaine du Parti communiste français. Est-ce qu'il vous apparaît aussi qu'il y a eu des défaillances de la justice et des élus dans cette histoire? Est-ce que vous considérez que les associations précitées, en tout cas celles parfois qui sont, c'est le niveau départemental, hein, ont une grave responsabilité dans cette affaire? Guillaume Agulot.
Alors déjà, par rapport à cet élément-là, heureusement qu'Internet n'oublie rien. Parce que dès qu'il y a eu cette information, la fédération effectivement des Yvelines du Parti communiste... du Parti communiste, avant de publier un communiqué pour déplorer l'assassinat de Dominique Bernard, a supprimé le communiqué de 2014 qui rappelait ça. Heureusement, Internet n'oublie rien et donc il est revenu. On a eu comme ça, tout le monde a pu avoir cette information. Qu'est-ce que ça dit ? Ben, ça dit qu'effectivement, il y a eu, d'abord qu'il y avait à l'époque et qu'il y a peut-être encore aussi aujourd'hui, un flou autour de ce qu'on appelle le droit des étrangers. Qui peut-être devrait s'appeler les droits des étrangers, tellement il est différent et variable et avec des textes qui parfois s'opposent en fonction des situations. Parce que si je lis les deux circulaires, si j'en lis une avant de lire l'autre, effectivement, la famille Bougouchov ne devait pas être expulsée puisque les enfants étaient tous scolarisés. Mais si je lis l'autre circulaire en premier, avant celle sur les enfants, en fait, la famille aurait dû être expulsée puisqu'il y avait à l'époque toutes les garanties pour que, ce n'est plus le cas aujourd'hui hein, en Russie, mais il y avait à l'époque toutes les garanties pour qu'en Russie, ces enfants puissent de nouveau être scolarisés. Parce que ce que l'on met en prima, et on a raison, c'est évidemment
la scolarisation
des enfants. Et à l'époque, il n'y avait strictement aucun problème.
En 2014.
En 2014. La situation géopolitique étant devenue ce qu'elle est devenue, cette famille-là était effectivement, de fait, inexpulsable. Les enfants. Le père a été.
Le père l'a été, lui.
Le père a été expulsé, je crois que c'est 2019. Mais Qu'est-ce que ça dit, par contre, donc ça c'est du côté du droit. Maintenant, qu'est-ce que ça dit du côté des associations? Ben, ça dit peut-être aussi, ça signale peut-être aussi, parce qu'il y a ce cas, il y en a d'autres. J'allais dire peut-être que on a peut-être mis en avant des valeurs, certaines valeurs de la part de ces associations, en oubliant d'autres. La devise de la République, c'est un triptyque. C'est liberté, c'est égalité, mais c'est aussi fraternité. Et la fraternité, c'est pas rien. D'abord, la fraternité, c'est le point majeur, c'est le point essentiel, c'est le point structurant de notre devise. C'est ce qui permet le fonctionnement de la liberté et de l'égalité. Ça veut dire que si on ne fait pas le choix d'être et d'agir dans un esprit fraternel, ça ne peut pas fonctionner. Manifestement, ces associations-là avaient envie d'agir dans un esprit fraternel. Et se sont mises au service dans un esprit fraternel auprès d'une famille qui, déjà à l'époque, refusait totalement, strictement, absolument, toute idée, tout esprit de fraternité vis-à-vis de ce que l'on appelle la communauté française, la communauté de la République. Parce que ce que l'on a vu se mettre en place dans cette famille-là était déjà à l'œuvre en 2014. En 2014, le premier point d'alerte pour la préfecture, c'est que la sœur aînée venait d'être sortie de l'école pour être positionnée. C'est le cas d'ailleurs aussi de la sœur cadette. Hein. Elle a témoigné de ça devant les enquêteurs là, ces derniers jours. La sœur aînée était déjà sortie de l'école pour être positionnée dans un enseignement clandestin, lui imposant le port du voile, puisque moi, on m'a toujours dit que c'était un choix, un libre choix, toujours partout, tout le temps, pour tout le monde. Non, pour les deux sœurs, en tout cas, voilà, s'il fallait un contre-exemple, ce serait un seul, ce serait dans cette famille. Les deux sœurs ont toutes les deux témoigné que c'était absolument pas un choix. Donc on avait la volonté absolument de ces associations, j'allais dire presque, de faire le bien malgré eux. Quoi, et peut-être qu'il faut effectivement utiliser un mot là-dessus, qui est peut-être le mot d'aveuglement, où on a voulu absolument faire passer des principes avant une réalité. Et la réalité, c'était que nous étions à l'époque face à une famille qui avait fait le choix de ne surtout pas, de quelque manière que ce soit, s'intégrer au sein de la République.
Thibaut Casal, sur la question que j'ai posée et sur le rôle qu'ont pu jouer ces associations à l'époque pour empêcher l'expulsion de la famille Mougouchkov, est-ce que vous pensez qu'elles ont fait preuve, comme le dit Guillaume Anculo, je vais employer le terme d'angélisme, ou est-ce qu'elles ont été, oui, dans leur rôle, à ce moment-là, avec les données dont elles disposaient en 2014?
Alors, de l'angélisme, dans un sens, oui, parce que fatalement, il pouvait y avoir comment dire ça,
Il y avait des informations.
Des informations, qui montraient que potentiellement, voilà. Mais après, en même temps, la CIMAD, typiquement, intervient régulièrement dans des affaires de ce type et la famille ne finit pas avec, et heureusement, avec quelqu'un qui commet un attentat. Donc, je ne vais pas dire qu'ils ont une grave responsabilité dans cette affaire et les incriminer plus que ce serait raisonnable. Pour le Parti communiste français, et pourtant je ne suis pas celui qui les défend le plus ces derniers temps, je ne vais pas non plus les mettre fautifs. Bon, comme vous l'avez rappelé, qu'ils suppriment leur communiqué, là par contre, je trouve ça petit dans le sens où ils avaient quelque chose à se reprocher, et s'ils ont quelque chose à se reprocher, dans ces cas-là, ils donnent raison à ceux qui vont dire qu'ils sont fautifs. Donc en 2014, ils ont agi pour une cause qui pensait la bonne. Ils pensaient à la fraternité, ils pensaient à ces valeurs de la République et ils voulaient aider, comme tant d'autres familles, éviter que cette famille soit expulsée et que du coup les enfants soient expulsés. Hein. Donc je ne vais pas jeter la pierre non plus sur le Parti communiste français. Même si je trouve quand même que le geste d'effacer ce communiqué montre quand même...
Il n'est pas à leur gloire.
Oui, moi je trouve ça gênant même un peu. Et juste quand même pour rappeler que... Et oui, c'est très grave que ces filles aient été sorties de l'école de la République, parce que oui, l'école de la République, c'est l'école du vivre ensemble. Et c'est encore l'un des seuls endroits en France, où il y a ce vivre ensemble.
C'est ce que disait Bruno aussi.
Pourquoi ? Parce que, oui, il y a des communautarismes, et là, je vais revenir là-dessus. Mais le communautarisme aussi, il ne faut pas que la République, au contraire de le combattre, le favorise. Dans le sens où, actuellement, dans des quartiers, c'est sûr que quand dans des quartiers populaires, Il n'y a que des personnes issues de la même culture, que des personnes qui, à majorité, ont la même religion, et qu'on les met ensemble, que dès que quelqu'un arrive sur le territoire, on les permet. Bah, en fait, on les met ici, c'est quand on leur donne pas le choix d'aller autre part. Parce que quand ces personnes-là, de par ce qu'ils gagnent, ne peuvent pas habiter dans le centre-ville de Toulouse, quand ils demandent, quand ils font des demandes pour un logement, ils se font refuser les demandes de logement dans d'autres endroits. Oui, alors après, non, de la même façon, moi-même, de la même façon, tout à l'heure, j'ai préféré vous laisser finir plutôt. Plusieurs fois, j'avais envie d'intervenir. Revenir là-dessus, l'état des services publics dans les quartiers populaires, les services publics qui représentent aussi l'État, ça pose aussi un problème parce que oui, l'État, du coup, est absent dans ces territoires quand les services publics en sont absents. Et ça, c'est la faute de l'État, hein, c'est pas la faute de ces communautés. Juste revenir sur un point, enfin bon, moi je trouve ça aujourd'hui en 2023 encore aberrant de parler de l'uniforme à l'école, et d'ailleurs Attal et le gouvernement en parlent. Enfin, plusieurs recherches ont montré que ça ne changerait rien, l'uniforme, au contraire.
Il y a beaucoup de pays qui ont des uniformes, je vois pas en quoi ça marche moins bien. Hein. Alors, et notamment en Afrique, par exemple, toute l'Afrique.
L'uniforme. Alors moi qui suis justement
enfin,
à moitié.
On va pas débattre là-dessus.
Justement, mais... moi qui suis à moitié brésilien, dans mon deuxième pays au Brésil, oui, il y a des uniformes dans les écoles. Et l'uniforme, selon votre, malgré que ce soit le même, selon votre niveau de richesse, au final, l'uniforme n'est pas de facto le même. Et donc ça pose un problème.
Parce que vous trouvez que quand il n'y en a pas, tout le monde, là, il n'y a pas de différence. Oui.
Mais accepter les différences, c'est aussi ça l'école de la République. Hein.
Non, justement.
Il faut accepter aussi les différences de certains élèves. Hein. Si on met tous les élèves au même niveau,
l'école de la République doit intégrer.
Si j'éduque de la même façon, si je fais cours de la même façon à un élève qui a des difficultés, à un élève qui n'en a pas, et ça veut dire que dans ces cas-là, je fais quoi? Je gomme toutes les différences? Non, on n'est pas là pour gommer les différences. Et la République ne gomme pas les différences.
On ne fait pas un débat sur l'uniforme, ce n'est pas le sujet. On dévie un peu là. On renoncire sur le rôle des associations.
Le rôle des associations, moi je vois tristement, malheureusement, qu'encore une fois, les principes de la République ne sont pas respectés. La République est remise en question par des associations. Je veux dire quoi par là? C'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par des textes de loi qui ont été votés par les assemblées, hein, le Sénat et l'Assemblée nationale, proposés par un gouvernement démocratiquement élu, par des gens qui représentent la République. Ils prennent des décisions et tout d'un coup, il y a quelques associations bardées de soi-disant bons sentiments qui viennent expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc, de quel droit est-ce que ces gens s'érigent en juge et remettent en question des décisions prises dans un cadre républicain? Donc je trouve ça extrêmement grave, parce que ça, si on commence à accepter ça, et la preuve qu'on a commencé à le faire, c'est la Pétaudière, c'est n'importe quelle association. Or, derrière ces associations, la CIMAD par exemple, qui est une association clairement d'extrême gauche, il y a quoi? Il y a des arrière-pensées électorales où ces gens-là prennent dans le sens du poil, et notamment de la question communautariste, un certain nombre de gens, en particulier les gens de religion musulmane, en se disant ça nous fera des bulletins de vote à la sortie. Donc c'est clairement ça l'histoire, il faut pas rêver. Donc c'est facile de faire pleurer sur des « Oh regardez, le pauvre on l'expulse sans connaître le dossier, sans rien connaître, et à partir de là on bloque tout et on empêche le faire ». Et puis le jour où malheureusement ça débouche sur une catastrophe, comme dans le cas dont on parle, de Dominique Bernard, mais on pourrait dire de Samuel Paty, ce jour-là, elles devraient quand même faire amende honorable, ces associations. Alors indirectement, le Parti communiste l'a fait en enlevant, parce qu'il en avait honte, en enlevant de son site l'erreur qu'il avait faite. Mais j'ai pas entendu la CIMAD dire « on s'est trompé ». J'ai pas entendu l'OMRAP dire « on s'est trompé ». C'est-à-dire que surtout, ils ne veulent pas fâcher ces soi-disant stigmatisés, oubliés par la République. Parce qu'on me dit qu'on oblige les gens, mais d'abord, on ne les oblige pas. Hein, il y a un tas d'endroits où les gens peuvent s'intégrer, s'ils acceptent de travailler, etc. Hein, en France, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut travailler et où l'intégration s'est faite à travers le travail de tout temps. Donc, et qui c'est qui va casser tous les services publics dans ces quartiers? C'est la République qui casse les services. Vous dites qu'il n'y a plus de services publics dans certains quartiers, mais parce qu'ils ne veulent pas que les flics rentrent, ils ne veulent pas que la poste rentre, etc. Donc ils veulent se retrouver entre eux pour développer une communauté. Et finalement, on sait où ça mène, ce communautarisme qu'ils sont en train de développer à la vitesse grand V. Ça mènera à une guerre civile un jour ou l'autre. Inévitablement, ça s'est passé comme ça dans toutes les sociétés. Donc les acquis de nos républiques depuis un peu plus de 200 ans, c'est-à-dire depuis le début du 19e siècle, on est en train là de les brader en quelques générations parce qu'on refuse de voir les problèmes d'intégration qu'on a. Or, on a su intégrer précisément. On a su intégrer tout un tas de gens, mais parce qu'ils adhéraient à notre culture. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, comme ça a été dit dans le cas de cette famille tchétchène, qui ne refusent nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils viennent en France, je pense, pour profiter d'un certain nombre de choses, mais surtout pas d'accepter un certain nombre de devoirs qui sont ceux des citoyens français. Eh bien, donc, ils déscolarisent leurs enfants, ils crachent sur la République. Ils n'oublient pas quand même de remplir les dossiers pour avoir toutes les aides sociales possibles et imaginables. Ça, en général, ils savent le faire. Mais tout le reste, ils le rejettent. Et je pense qu'on a un vrai problème à traiter, qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Et c'est sûrement pas en disant « la République ne fait pas ce qu'il faut ». Est-ce qu'eux, ils font ce qu'il faut pour s'intégrer ?
Et moi, je voudrais juste oui, en une phrase
rapidement, Guillaume Aguilou, s'il
répondre
vous plaît.
À ce que tout à l'heure a dit notre camarade de génération, quand vous avez dit que les premières victimes, en fait, c'était ces enfants issus de cette communauté, la communauté musulmane. Non, les premières victimes, elles s'appellent Samuel Paty et Dominique Bernard. C'est eux qui sont au sol, c'est eux qui ont été poignardés. Il faut arrêter aussi cette inversion accusatoire. Les premières victimes, ce sont des profs qui ont été assassinés par le terrorisme islamiste.
Et puis, je voudrais finir quand même sur une chose. C'est bien beau le discours sur la fraternité que j'ai entendu. Bien sûr que c'est une valeur cardinale de la République, mais on a un problème avec ce discours sur la fraternité. C'est que vous avez une partie de la classe politique qui prône la lutte des classes. Est-ce que la lutte des uns contre les autres, c'est la fraternité ? Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui défendent ces gens-là sont tous partisans de la lutte des classes. Le Parti communiste, par exemple, mais la CIMAD, le MRAP, etc. Et après, ils viennent nous dire la fraternité, c'est important, mais moi, je crois que c'est incompatible avec la lutte des classes, la fraternité.
Alors, le Parti communiste français, aujourd'hui, la lutte des classes, ils l'ont quand même bien mis de côté. Il n'y a qu'à voir les discours de Fabien Roussel, ou sinon, dans ce cas-là, on se demanderait pour quelle classe il se bat. Mais pour finir, vous voyez, c'est vous qui m'interrompez, alors oui, que moi non, je non, ne le fais pas. Non, mais s'il vous plaît.
Et c'est terminé.
Donc, juste pour dire que oui, bien entendu, ce sont Samuel Paty, ce sont eux qui sont les premières victimes. Ça, d'accord. Peut-être que je me suis égaré en disant ça, mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il y a ces attentats, il y a une montée de l'islamophobie, il y a une montée de l'extrême droite en France, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, les musulmans de France sont victimes du terrorisme qui n'est pas issu dans son fondement même de la religion. Parce que la religion musulmane n'est pas terroriste. Voilà.
Ils sont victimes.
On ne vous réconciliera pas sur ces questions, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Je voulais juste rappeler, préciser que les obsèques de Dominique Bernard ont eu lieu ce matin, s'il vous plaît, en la cathédrale d'Arras.
En Irak, oui, il y en a eu. Les musulmans, il y en a eu.
S'il vous plaît, il va beaucoup manquer à sa famille. C'était un formidable professeur, tout le monde l'a rappelé. Et bon, on aurait tous aimé avoir, on en a eu des professeurs comme ça. Mais voilà, il va beaucoup manquer à sa famille, à ses amis, à ses collègues et surtout à ses élèves. Que cet homme de bien, cet homme courageux repose en paix en espérant que plus jamais un professeur n'ait à payer de sa vie le simple fait d'exercer son métier. Nous allons faire maintenant l'habituelle petite pause dans cette émission avant notre second débat. On reste à l'écoute de Radio Présence et on revient dans une vingtaine de secondes. Allons.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec Guillaume Aguilot, Thibaut Casal et Bruno Cyr pour un second débat consacré au chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Malgré l'opposition et les actions de militants écologistes et d'élus, Europe Écologie Les Verts, LFI ou de la NUPES en général, le gouvernement a annoncé que ce chantier était maintenu, je cite, « conformément à la volonté politique clairement réaffirmée localement ». Une décision faisant suite à une réunion menée vendredi par les préfets de la région Occitanie et du Tarn, à laquelle ont participé les élus du territoire, les associations environnementales et les représentants du monde économique. Le gouvernement conduira donc le projet jusqu'à son terme et il a appelé à la responsabilité et au strict respect de l'état de droit. Est-ce que vous vous réjouissez personnellement de cette décision ou pensez-vous qu'il faut encore la remettre en cause, la contester par tous les recours possibles. Bruno Cyr.
Alors, je crois que les recours, d'abord, sont épuisés sur cette question. Il y a 30 ans que ça dure, il y a eu tous les recours et toutes les décisions étaient prises. C'est vrai que, personnellement, j'habite près de cette future autoroute du tracé, et j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça aujourd'hui, objectivement. Bon, ceci étant, il y a un état de droit, et comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre des problèmes des musulmans en France, enfin, ou d'une partie des musulmans qui ne veulent pas respecter l'état de droit, ben là je dis la même chose. Il y a un état de droit, tout a été étudié, fait dans les règles, etc. La présidente Carole Delga de la région est pour, le président du département, du conseil départemental du Tarn est pour, les maires des grandes villes qui seront desservies par cette voie sont pour, la chambre de commerce est pour, etc. En fait, tous les élus sont pour. Or, les élus sont des gens qui remettent leur mandat devant le peuple. Donc, il y a quand même là un poids démocratique, une responsabilité. Et on a quelques associations que je comprends, qui sont contre. Pourquoi ? Quel est le problème ? On le connaît, le problème. Cette autoroute, il y a 30 ans qu'on en parle, si on ne l'a pas faite, c'est parce que il n'y avait pas assez de trafic pour que l'on puisse justifier l'investissement de l'État. L'État a dit, il n'y a pas assez de trafic, donc je ne paie pas. Alors que l'État a payé, aujourd'hui, on peut aller à Rodez sans rien payer, hein, en tout cas depuis Montastruc jusqu'à Rodez, ça fait quand même beaucoup de kilomètres. On peut aller à Auch sans payer, on a une quatre voies pratiquement tout le temps, les travaux sont en train de se finir. Et à Castres, là, tout d'un coup, ça va coûter 17 euros, parce qu'en fait, ça coûte...
Aller-retour, 17 euros, oui.
Oui, oui, 17 euros, en intégrant, évidemment, le péage oui. qui est à la sortie de Toulouse. Donc, c'est quand même très cher. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette solution ? Parce que l'État a dit, moi, il n'y a pas assez de trafic, donc je ne paye pas. La région a dit, moi, il n'y a pas assez de trafic, donc je ne paye pas. Et comme les élus du Tarn le voulaient quand même, on a dit, ah ben écoutez, on va faire payer les usagers. Donc effectivement, c'est les usagers qui vont se payer cette route, alors que pour aller à Auch, ils ne le payent pas, pour aller à Albi, ils ne le payent pas, etc. Donc ça, ça me choque un peu. Et la deuxième chose qui me choque, c'est qu'il y avait des travaux qui, eux, ont été payés par le contribuable pour contourner Soile et pour contourner l'autre ville là qui est sur la route. Ces travaux ont coûté cher. Il y a quatre voies sur ces deux déviations. Ils sont gratuits aujourd'hui. Hein, ça a été payé par tous les contribuables. Et on va les privatiser. C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus les prendre sans payer. Ça me choque aussi. Je trouve que là, il y a un peu une spoliation des gens qui ont payé les impôts pour avoir et qui avaient droit à prendre ces routes. Donc, c'est vrai que le dossier, de ce point de vue-là, présente une faiblesse. Ceci étant, moi, je suis légaliste, on est dans un état de droit, tout a été fait dans les règles, et bien maintenant, c'est trop tard, quoi. Il fallait faire pression sur les élus avant. Là, je pense que le coup est parti, et s'il y a des débordements, j'estime que ça sera quand même très grave. C'est une remise en question, encore une fois, de la démocratie par quelques-uns, et je suis contre.
Alors, Thibaut Casal, vous serez peut-être en partie d'accord cette fois-ci.
Alors oui, je suis en partie d'accord sur l'idée que oui, c'est un projet qui n'a plus lieu d'être parce que c'est un projet écocide, c'est un projet archaïque. Et aujourd'hui, je pense que, et la mobilisation le montre bien, et le fait qu'on en parle autant montre bien qu'il y a un problème avec cette A69. Il y a un problème déjà au point de vue écologique. On ne parle pas des milliers de tonnes de CO2 qui sont utilisées pour construire cette autoroute. Pollution dangereuse pour les riverains, l'artificialisation de terres sauvages, destruction de surfaces agricoles. Bon, donc voilà, le propre d'un projet écocide. Mais alors en plus, et c'est là où ce qui m'interroge, c'est que certains socialistes, et pas tous, soutiennent ce projet, parce qu'une autoroute à 17 euros aller-retour, quand on dit qu'on défend les plus démunis, enfin qu'on se dit socialiste, hein, tout simplement, je vois pas comment on peut être pour cette idée-là. Et d'ailleurs, Madame Delga, certes, soutient ce projet, mais Olivier Faure, par exemple, a dit qu'il faudrait un moratoire sur le sujet. Et qu'aujourd'hui, ce sujet n'avait plus lieu d'être.
Olivier Faure.
Oui, il aime ce mot en ce moment.
C'est pas une lumière.
Mais en tout cas, des recours, tout n'a pas été épuisé. Et d'ailleurs, il reste toujours le droit de manifester. Et ce week-end, une manifestation a lieu à laquelle je participerai avec mes camarades de génération. Parce que oui, il y a une signature d'élus LFI, ELV du Tarn et de la Haute-Garonne, mais aussi d'élus Génération, entre autres tous les élus du groupe Génération au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui siège pourtant avec la majorité, mais qui sur ce thème-là ont été en désaccord, et même certains élus de la majorité siégeant dans le groupe du Parti Socialiste en Haute-Garonne sont contre, avec notamment Didier Cugive. Et alors, j'ai trouvé ça assez drôle que vous fassiez le parallèle avec le thème de tout à l'heure, parce que si je peux moi aussi faire un parallèle avec le thème de tout à l'heure, c'est là où les islamistes radicaux sont une minorité, ici on a une majorité des habitants qui sont contre. Parce que un nouveau sondage vient de sortir, 61% des habitants sont contre.
Et des habitants qui sont sur le tracé,
oui, quels habitants?
On parle des habitants de la Haute-Garonne et du Tarn.
Et du Tarn.
Voilà.
Quelle que soit la
Haute-Garonne,
zone où ils
habitent. Haute-Garonne, Tarn. Et ce sont quand même les personnes qui vont être impactés et touchés par cette autoroute.
Oui,
ce sont ceux qui vont la pratiquer. Ce sont ceux qui vont la pratiquer. Et donc, moi, parce que je vois quand même beaucoup de camarades socialistes, et du coup, je ne citerai pas leur nom, mais qui sont bien embêtés parce qu'ils sont contre, ils sont contre, mais vu que la présidente de région est pour, ils sont obligés, quand ils passent aux infos, de dire oui, bah, la 69, voilà, on ne peut plus rien faire. Ben, dans ces cas-là, on peut leur offrir une porte de sortie. Hein. C'est un référendum local. 82% d'ailleurs des habitants sont pour ce référendum. Et voilà, tranchons. Et je pense que c'est important qu'on puisse remettre en cause aujourd'hui des projets d'il y a 30 ans. Parce que si on ne peut plus remettre en cause des projets d'il y a 30 ans, comment on fait? On accepte tout et n'importe quoi. On accepte une vérité d'il y a 30 ans qui n'est plus la même aujourd'hui, mais qui n'est plus la même aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, avec tout ce qui se passe, ne serait-ce que si on retourne 10 ans en arrière, les projets possibles il y a 10 ans en arrière ne seraient plus possibles aujourd'hui en termes de politique publique. Alors pourquoi là, la 69, celle-là, si on va la garder, tout ça pour faire plaisir à Fabre et à ses industries, d'ailleurs Pierre Fabre qui du coup ne l'aura jamais vu. Mais aujourd'hui, c'est plus possible de dire que non, mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Tant que cette autoroute n'est pas finie, c'est pas trop tard. Et il faut faire son maximum pour ouvrir les yeux du ministre des Transports et de madame la présidente de région.
Vous, vous préconiseriez quoi comme solution alternative? Une voie rapide, deux fois deux voies, la voie actuelle.
La voie actuelle, au final, la 69, c'est faire gagner que 20 minutes sur ce tracé-là. Moi, je vois pas... Quel besoin il y a aujourd'hui d'agrandir cette route?
Il
n'y
a rien qui justifie,
route.
Selon vous.
aujourd'hui, pour gagner 20 minutes.
20 minutes, pour vous,
20 minutes,
le jeu n'en vaut
20
pas
minutes,
la
ça ne sert à rien. Gagner 20 minutes, tout ce que ça va amener au niveau écologique de désastreux, ça ne vaut pas 20 minutes de gagner. Et alors, en plus, je ne vais pas parler qu'écologie, mais je vais revenir d'ailleurs sur le prix. Enfin, ce serait quand même l'autoroute la plus chère de France. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc au final, c'est qui va y être sur cette autoroute? Ça va être des entreprises, oui, qui, voilà, eux ont les moyens, ils vont dépenser 17 euros et ça va leur faire gagner 20 minutes. Mais le contribuable lui-même, il ne va pas la prendre.
Guillaume Agulot, quelle est votre position après les deux précédentes?
Alors moi, ma position, elle est, premièrement, c'est que, effectivement, je pense que cet équipement-là, s'il se fait, ce qui semble être la décision de l'État, répond plus à un besoin de facilité qu'à une utilité, pour le dire un peu vite, et que des aménagements auraient pu effectivement être faits. Sauf que moi, là, je suis juste derrière un micro, je ne suis pas en position de décideur. Les décideurs, eux, ils ont décidé, et c'est pour ça qu'on les élus. Et si ça ne nous plaît pas, ben, à ce moment-là, on change de nos décideurs. Vous l'avez rappelé, 30 ans, ça fait 30 ans que ce projet est là. Comment se fait-il, si effectivement il y a une telle opposition, sur 30 ans, et pas sur le temps d'un sondage, sur 30 ans, s'il y a effectivement une telle opposition, comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes décideurs et qu'il y ait toujours eu un consensus sur la réalisation de cette autoroute Toulouse-Castres, 30 ans consécutivement, par tous les exécutifs en place? Première interrogation. Après, moi, je vais déjà dans l'au-delà. Parce que là, nous avons aujourd'hui, ce soir, un débat qui est un peu plus policé d'ailleurs que la fin du précédent. C'est pas plus mal. C'est toujours mieux quand on peut s'entendre. Mais là, on est entre nous. Moi, ce que je vois se dessiner, vous l'évoquiez là pour la manifestation qui se profile pour ce week-end, c'est l'arrivée de personnes qui n'ont rien à faire, de savoir si cette autoroute va se faire ou ne va pas se faire. C'est pas leur sujet.
Et si elle se justifie ou pas.
Oui. Et si elle se justifie ou pas, je pense qu'ils ne certains d'entre eux pour des raisons très clairement, ils se sont même pas posé la question parce que c'est pas leur intérêt. On a déjà effectivement les forces de police qui présentent sur place, qui signalent ces personnes cagoulées de noir, hein, les fameux Black Bloc, avec déjà des saisies de matériaux qui, si leur réalité n'est pas très très dangereuse, on est plus sûr de l'airsoft, quand même ressemblent à des armes quand on les voit. Et bon, voilà où on en est. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va se retrouver ici pour la énième fois face à une opposition radicale qui ne veut pas entendre parler de ça. Pas du tout pour des raisons écologiques ou écocides, qui sont pourtant parfaitement audibles, mais simplement par principe, nature et essence. On l'a connu avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Plus près de chez nous, on l'a connu avec le barrage de Sivens.
Sivens, oui.
Hein, on est sur le même territoire.
Et on sait comment
là.
Ça s'est terminé.
Et on sait comment ça s'est terminé, avec la mort de Rémi Fraisse. Et je pense que, certes aujourd'hui, là nous en débattons ce soir, mais que ce qui va se jouer avec l'enclenchement des travaux sera... quelque chose qui va être de cette nature-là. On l'a vu, des occupations dans les arbres, obligés d'amener des grutiers pour déloger dans les arbres. Si vous regardez Notre-Dame-des-Landes, ça s'est commencé exactement comme ça, des occupations, des installations dans les arbres, et ça s'est terminé par une bataille rangée. J'ai participé à votre invitation aussi au débat sur les méga-bassines à Sainte-Soline. Et ça a commencé par des installations dans les arbres, et ça s'est terminé par une bataille rangée. Ce que je note, c'est qu'entre Sivens, Notre-Dame-des-Landes et Mégabassine, on avait déjà eu une augmentation de la dangerosité, de la violence, etc.
Actions.
Et je pense qu'effectivement, le terme de guerre civile tout à l'heure a été utilisé, peut-être qu'il n'arrivera pas uniquement sur les questions de laïcité et de vivre ensemble ou faire ensemble, je préfère le terme de faire ensemble que vivre ensemble, personnellement. Je pense qu'il va aussi arriver sur ça, parce qu'on a aujourd'hui des extrémistes qui ne veulent rien entendre autre que simplement leur position. Et ça, c'est un vrai problème. Cette réunion de concertation a eu lieu effectivement à la préfecture avec des personnes qui sont arrivées à la réunion en disant « nous n'en attendons rien ». Et de l'autre côté, il y avait des personnes qui disaient « on va leur réexpliquer, mais de toute manière, ça ne change rien ». C'est-à-dire que c'était une réunion de concertation qui n'était pas là pour concerter, mais où chacun était simplement là pour dire « ben voilà nos positions, ben on les connaît depuis 30 ans, et vous, ben votre position, ben celle-là, on la connaît aussi depuis 30 ans ». Ça n'a servi à rien, si ce n'est qu'à exacerber les choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, on a un homme politique qui se croit un destin national, qui nous parle de moratoire. Effectivement, vraiment, il n'y a plus que ce mot-là aujourd'hui à la bouche en ce moment. C'est quand même un petit peu curieux quand on prétend gouverner le pays. Ça veut dire qu'on va arriver, moi j'en ai vraiment peur, hein, on va arriver à un état de violence et de confrontation sur ce chantier-là et qui se réglera d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore dans quel sens.
Qui sera dramatique
et qui ira se déployer ailleurs, sur un autre chantier, sur un autre aménagement, sur un autre équipement structurant, dont on nous dira « mais ça fait 30 ans qu'on nous en parle, oui, mais nous, il n'en faut pas, etc. » Et c'est une fois de plus ce qui recommence. Pourquoi on en est là? Bruno Cyr l'a dit très justement tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, et ça fait très longtemps, on n'a plus voulu faire appliquer l'état de droit. Et aujourd'hui, l'enjeu de la 69, il est là. Est-ce qu'on continue de reculer? Ou est-ce qu'enfin, on dit « l'état de droit prime » C'est la seule question qu'il faut se poser. Tout le reste... c'est de la littérature et du verbiage.
Et moi, je trouve irresponsable les partis politiques qui vont aller manifester parce que là, maintenant, il faut calmer le jeu. Et il y a quelques petits malins qui croient intelligents de remettre de l'huile, d'en remettre une couche et qui vont ensuite dire « Oh, ils se battent !» Ben oui, ben vous serez responsable de cette bagarre. Donc il y a un moment où il faut calmer le jeu, il faut respecter les institutions. C'est dramatique qu'il y ait des hommes politiques qui se prétendent responsables et qui soient en permanence en train de souffler sur les braises.
Thibaut Casal, vous entendez ce qu'a dit Guillaume Agulot là, ou vous pensez que que c'est un peu, ils jouent les Cassandres, un peu les prophètes de malheur. Vous pensez que ça n'ira pas jusque-là ou vous craignez aussi que ça puisse dégénérer rapidement?
Que ça puisse dégénérer, c'est possible. Malheureusement, on le voit bien que depuis plusieurs années, c'est compliqué d'avoir des manifestations qui se tiennent dans le calme. Et d'ailleurs, même quand certaines se tiennent dans le calme, au final, ça dégénère et pas forcément toujours à cause des manifestants. On l'a vu pendant les retraites à certaines reprises.
C'est les flics. C'est
et non, pas toujours. Mais c'est pour ça. J'ai pas dit que c'était toujours la faute de la police. Enfin, ça, c'est vous qui êtes en train de dire. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, c'est la faute des manifestants et des fois, la police a un usage de la violence surdimensionné. Et si on veut aller à ce niveau-là, il y a eu, il y a un mois, une manifestation contre les violences policières, etc. Nous, génération, on y était. On y était d'ailleurs à Toulouse. Et on avait pour mot d'ordre simple que s'il y a des slogans anti-police, anti-républicains qui sont lancés, on quitte la manifestation. Ça n'a pas eu lieu. Une des manifestations d'ailleurs, enfin un rassemblement, on était place du Capitole contre la 69. D'ailleurs, c'est un rassemblement, alors on était tous étonnés, il n'y avait pas une seule présence, il n'y avait personne des forces de l'ordre. Il n'y avait pas une seule personne des forces de l'ordre présente autour de la place du Capitole. Mais ça s'est très bien passé aussi. Donc bon. Alors oui, ce week-end, c'est possible que ça dégénère. Et si ça dégénère, on partira. Parce qu'on ne cautionne pas ces violences-là. Sauf que quand je ne vais pas ne pas aller manifester contre la 69, parce que certains peuvent être violents. Donc oui, j'irai. Et oui, ces personnes ont été élues, Madame Delga a été élue, etc. Sauf que quand on élit quelqu'un, on ne lui donne pas non plus un chèque en blanc. Et sinon, la politique d'Emmanuel Macron, on ne dit rien contre parce qu'il est élu.
On va terminer là-dessus, c'est la fin de ce 128e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Merci également à Christophe Aubry qui a suppléé aujourd'hui Coraline Camebrac à la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Bonne fin de semaine, bon week-end et à bientôt.